Il m'est agréable de vous retrouver une troisième fois sur le thème qui vous a été annoncé, signe des temps. Signe des temps et en particulier ce soir, le signe de l'Antéchrist. Je dois vous dire d'entrée de jeu que je préfère nettement parler du Christ que de l'Antéchrist. C'est clair, mais il nous faudra quand même en arriver là, étant donné nos temps et les signes que nous vivons. Le premier soir, signe des temps, nous avons énuméré le plus de signes possibles en quelqu'une heure et demie. Ceci avait été trop court. Hier soir, nous avons parlé de l'enlèvement, ça a été encore trop court, une heure et demie. Alors ce soir, quelqu'un m'a dit, vous devriez parler 4 heures. Vous êtes prêts? On y va? En tout cas, on ne parlera pas 4 heures, mais là encore certainement 1 heure et demie, ce sera irrésistible. Mais nous couperons la séance par une intervention pour des annonces. Ceci nous détendra un peu. Et ceci changera d'avec les soirs passés. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans un premier temps, dans la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Nous lisons au chapitre 4 des textes très solennels. Des textes auxquels nous avons fait allusion dès le premier soir. Et qui disent ce qui suit, à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est un premier texte auquel nous en ajoutons un autre, dans la deuxième à Timothée, au chapitre 4. Merci beaucoup. Nous lisons à partir du verset 3e. Toujours à propos des derniers temps. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, littéralement en grec, là, maître sur maître. Selon leur propre désir, ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Oh, que ces paroles sont solennelles. Nous parlons donc ce soir de l'Antéchrist, mais il faut dire que l'Antéchrist est synonyme d'apostasie. Alors, je propose que nous jetions un œil sur, je ne dirais pas l'apostasie actuelle, parce que la Bible affirme que l'apostasie ne commencera qu'avec l'avènement de l'Antéchrist. Mais nous vivons une période de pré-apostasie. Alors, il est intéressant de la considérer, cette période de pré-apostasie. Je le disais dès le premier soir, est-ce ici ou à Granby, parce que j'en suis à ma deuxième convention prophétique, en 2 Timothée 4, les textes lus tout à l'heure, plutôt en 1 Timothée 4, les textes lus tout à l'heure concernaient l'Église. Oui, en 1 Timothée 4, quelques-uns abandonneront la foi. Or, les non-chrétiens n'ont pas la foi, une quelconque foi abandonnée. Il s'agit donc d'une radioscopie de l'Église, c'est-à-dire d'un abandon de la foi. Qu'est-ce que l'apostasie dans sa définition? Oui, elle consiste dans l'abandon de la foi, pour commencer, mais aussi dans l'abandon des valeurs fondamentales de l'existence. Comme par exemple l'abandon du mariage, ceci est signalé d'ailleurs dans les textes entendus tout à l'heure. Il est bon donc de préciser les choses. L'apostasie, un abandon. C'est donc la génération de la fin qui abandonne le Seigneur, hein, et qui se détourne de lui pour s'orienter vers autre chose, et en particulier vers des fables. Mais à propos d'apostasie, Jésus va encore plus loin. Le Christ lui-même, en Matthieu 19, quand on était venu le consulter à propos de la répudiation, ceci est très intéressant, Moïse nous a prescrit une lettre de divorce, lui avaient dit les Juifs. Jésus avait répondu, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit une lettre de divorce. Il n'en était pas ainsi au commencement. C'est Jésus qui a parlé de cette façon-là. Je rapporte ce qu'il a dit. Mais le mot grec ici, à propos de divorce, c'est le mot apostasia. Apostasion, qui veut dire, qui a été traduit dans ma Bible par divorce. Voilà donc un élément de plus ajouté à la compréhension du mot apostasie. Dans la bouche du Seigneur, c'est un divorce. Mais bien entendu, un divorce moral et spirituel. D'avec Dieu, en définitive, la dernière génération, et surtout, j'allais dire, l'Église de la fin, entrera dans une sorte de divorce d'avec Dieu. Oh, que ces temps sont solennels. Ainsi, par exemple, en est-il question au livre de l'Apocalypse à propos de l'Église de Laodicée. Cette Église qui avait versé réellement dans un matérialisme épouvantable et qui s'était embourgeoisée, qui disait qu'elle n'avait besoin de rien, etc., et qui entrait justement, elle aussi, dans une sorte de pré-apostasie à nous en faire frémir. Nous vivons aujourd'hui en des temps qui amorcent un divorce moral et spirituel d'avec Dieu. Nous vivons aussi des temps excessivement difficiles parce que nous constatons un peu partout que la pression diabolique sur l'Église est énorme. À partir de textes que nous avons lus tout à l'heure, esprit séducteur, doctrine de démons, faux docteurs, tout ceci est tout à fait notre actualité aujourd'hui, jusque dans nos églises, et même nos églises évangéliques. J'entendais dire il y a peu de temps que plusieurs églises évangéliques aux USA, aux États-Unis, versent dans le Nouvel Âge. J'ai écrit un livre sur le Nouvel Âge. Malheureusement, il n'est pas en librairie. Moi, je ne peux pas prendre de livre avec moi, étant donné ce que ça peut coûter dans l'avion. Alors, j'attendais un peu qu'on se fournisse ici même. Mais enfin, je pense qu'à Montréal, à la CLC, par exemple, puisque c'est la CLC en France et dans le monde qui s'occupe de la diffusion de ce livre, Scanner sur le Nouvel Âge, vous pourriez vous le procurer. Alors, nous entamons, en fait, dans notre génération, un divorce d'avec Dieu. Ceci est absolument grave. Et c'est l'homme qui décide de ce divorce d'avec Dieu. Voyez-vous, moi je ne crois pas du tout ce que certains pensent, encore que je les respecte et que je les prends pour de réels frères et sœurs en Jésus-Christ. Mais je ne vois pas un réveil au plan planétaire. Je ne vois pas un dernier réveil spirituel sur la surface de la terre avant le retour de Christ. Je ne voudrais pas vous décevoir. Moi, je vois autre chose. Jésus a dit, en raison de la pression de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. En Luc, il a dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre à son retour? Et à partir de textes encore comme ceux que nous venons de rappeler, quelques-uns abandonneront la foi, là, s'il s'agit de l'Église. Les païens, les non-chrétiens, n'ont pas de foi à abandonner. Ils n'ont jamais eu la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour se tourner vers des esprits séducteurs Et nous le voyons de nos jours de façon très triste en même temps que très tragique. En d'autres termes, à partir de l'interprétation du divorce par le Christ, une apostasie, et le divorce est une apostasie, hein, le divorce physique entre les hommes, entre, au niveau d'un conjoint, de conjoint, d'un couple, nous sommes en train de cette même façon de répudier Dieu. Dieu est en train de se voir répudié. La génération n'en voulant plus. Alors, quelles conséquences? Nous marchons au-devant d'une répudiation, nous aussi, de la part de Dieu. Et quand je dis « nous aussi », je parle de la génération de l'Antéchrist. Déjà dans les temps passés, Dieu s'était vu comme obligé de se détourner de l'homme. Par exemple, il s'était vu obligé de se détourner de son peuple. Ceci est rapporté par Étienne, par exemple, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7. Vous vous rappelez de cette prédication de l'apôtre, plutôt de, c'était pas apôtre Étienne, mais de ce diacre, n'est-ce pas, de cette phase qui l'avait conduit au martyr. Il avait rappelé la marche dans le désert, la révolte des Israélites. Il avait rappelé le veau d'or, et parce que Israël, le peuple de Dieu, en était arrivé à l'adoration du veau d'or, le verset 42e dit ce qui suit, acte 7, 42, « Alors Dieu se détourna. » Oh, il peut se faire que Dieu se détourne des hommes, hein. Et il les livra au culte de l'armée du ciel. Il peut se faire que Dieu se détourne de l'homme et qu'il le livre à lui-même, par exemple, en Ésaïe 6, verset 10, il est question aussi de Dieu qui, en fait, répudie son peuple en ces termes. Rend, il a dit à Ésaïe, donc, rend insensible le cœur de ce peuple. Endurcit ses oreilles. Il est quand même dur de penser que Dieu ait pu parler ainsi. Mais voyez-vous, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous en avez qui ne veulent voir de Dieu que l'aspect, j'allais dire, son aspect agréable, celui de son amour. Mais Dieu, s'il est l'amour dans sa personne, la Bible l'affirme, hein. La Bible dit qu'il est aussi la justice dans sa personne. Et que parce qu'il est juste, il ne souffre pas le péché. Dieu est patient, il peut attendre, il a attendu tellement longtemps avec la génération de Noé, et pour finir, après plus de 100 ans, il l'a jugé, cette génération. Ainsi en avait-il été aussi de celle de Lot. Des générations qui ont été jugées par le Dieu qui est l'amour dans sa personne, mais aussi par le Dieu qui est la justice dans sa personne. Alors là, Dieu avait parlé à Ésaïe en ces termes, « Rend insensible le cœur de ce peuple, parce qu'il ne peut rien entendre, hein. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit guéri. » Voilà, Dieu souhaitant qu'un peuple ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ceci peut réellement étonner. Mais avec Dieu, il y a aussi un point de non-retour. Un point de non-retour que la génération de Noé avait éprouvé. Un point de non-retour que la génération de Lot avait aussi éprouvé. Un point de non-retour aussi avec notre génération. Celle qui amorce un début de divorce, c'est-à-dire d'apostasie avec le Seigneur. Au point qu'on nous dise aujourd'hui que nous sommes en train d'entrer dans une ère post-chrétienne. Après avoir essayé le christianisme, nous le mettons à l'heure qu'il est de côté pour essayer autre chose. J'en dirai davantage dans quelques instants. Oui, il peut se faire que Dieu, parce que poussé à bout, en arrive à se détourner de l'homme. En Romains, par exemple, chapitre 1, une expression revient couramment. à propos de ce Dieu qui divorce d'avec l'homme, étant donné l'homme qui ne veut rien entendre de lui. Alors, nous lisons en Romains 1, 23, n'est-ce pas ? Les hommes ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Ça fait frémir, cela, hein ? Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé, voilà ce qui est tragique, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi, une deuxième fois, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes. Ça, c'est notre actualité, hein. En plein, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, Dieu les a livrés. Alors, à son tour, Dieu peut divorcer d'avec l'homme. Verset 28, la même expression revient. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. À trois reprises, cette expression revient. Elle est donc très solennelle. Oh, pour ceux et celles qui, parmi nous, ce soir, ne seraient pas encore chrétiens. Oh, il est vrai que Dieu est amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai. Mais la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, la suite, il le moissonnera. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Or, notre génération se moque de lui, et le brave même, le défie en face. Ce qui est tellement dommage. Il est donc tout à fait clair que nous soyons entrés dans ce genre de climat, dans ce genre de situation souvent très difficile à vivre et que je qualifierais de temps pré-apostate. L'apostasie ne devant réellement apparaître ouvertement qu'avec cet homme que la Bible appelle l'homme du péché, l'homme de l'iniquité. Mais ce climat dans lequel nous vivons, cette ambiance, cette atmosphère d'abandon de Dieu, de divorce d'avec Dieu, parce que c'est l'homme qui commence de divorcer d'avec Dieu, ouvre grande la porte à celui qui alors se dressera devant Dieu pour lui lancer un défi en face. Incontestablement, nous y courons, littéralement. Voyez-vous, nous pourrions aussi, à propos de temps pré-apostate, nous pourrions caractériser nos temps de la manière suivante. Il présente un paradoxe tout à fait étrange. Par certains côtés, notre génération est enclin à une crédulité démentielle. Ça veut dire quoi ? Qu'il est prêt à croire n'importe quoi. Voilà donc le succès. Voilà qui explique le succès des sectes. Des sectes parfois tout à fait aberrantes. Je ne sais pas si vous avez cela ici. Nous avons en France cette secte des adorateurs de l'oignon. Vous avez ça ici ? Vous allez dire, mais ces petits Français, ils sont vraiment maudits, hein ? Un jour, je suis entré dans un café près de Lévis, là-bas, vers Québec, et puis à cause de mon accent, comme vous le remarquez, j'ai un accent, paraît-il, un accent français. Celle qui m'a servi un café m'a dit, « Vous êtes un maudit Français, vous ?» Alors, dans mon cœur, je me suis dit, « Un Français, oui, mais béni, hein ?» En tout cas, les adorateurs de l'oignon, est-ce que vous avez ça ici ? Bon, vous n'êtes pas encore fous, c'est bien. On est prêt à croire n'importe quoi. Oui, une crédulité. Crédulité, ça veut dire croire facilement dans quelque chose que je qualifierais de démentiel, mais ces temps ont été annoncés. Voilà pourquoi l'Antéchrist, quand il apparaîtra, les hommes sur toute la surface de la terre mettront en lui leur confiance. Ils sont prêts à croire n'importe qui, n'importe quoi. De Timothée 4, 3, nous l'avons rappelé tout à l'heure. Nos oreilles nous démangeront, dit la Bible. Oui, les hommes auront les oreilles leur démangeant. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. On est prêt à croire n'importe quoi. La théorie de l'évolution, tenez, organique, qui est remise en question aujourd'hui, heureusement, par nos savants, ceux-là même qui l'ont prôné, qui l'ont enseigné, nous disent il ne faut plus y croire, on s'est trompé. Mais on continue de l'enseigner parce qu'on n'a rien à mettre à la place. Quel argument ? Est-ce que c'est une réponse, là ? Bien entendu qu'ils se sont aperçus que ça ne tenait pas debout. Tenez, pour vous détendre, vous avez eu la gentillesse de venir ce soir. Vous savez que pour croire la théorie de l'évolution, il faut absolument accepter que le singe, qui est devenu un homme, ait été obligé de vivre pendant des générations à plat ventre. À plat ventre, pourquoi ? Parce que le centre de gravité chez le singe ne se situe pas au même endroit que chez l'homme. Et dans sa courbe, au cours de son évolution, à partir du centre de gravité du singe, qui lui permet un certain équilibre, à celui du centre de gravité de l'homme, à un certain moment, le singe ne pouvait plus contrôler une position d'équilibre, ce qui l'aurait obligé à rester couché, à vivre couché, pendant des générations. Alors les savants ont réfléchi et se sont dit « ce n'est pas possible, on ne peut pas gober cela, ça ne peut pas se faire ». Et puis, sous la plume d'un éminent savant, il y a peu de temps, j'ai pu lire ce qui suit. Vous savez, la théorie de l'évolution donc enseigne que nous sommes issus du radiolaire marin, qu'ensuite, tout ceci s'étant développé au cours de millions d'années, le poisson est sorti de l'eau. Il a commencé de ramper, des pattes lui ont été accordées à force de ramper, tout cela étant venu tout seul. Oui, c'est fou ce qu'on peut croire, c'est pour ça que je vous dis, le siècle est absolument crédule, mais de façon démentielle. Et ce même savant d'écrire, un savant, une grosse tête. Mais franchement, je me suis posé la question si sa tête n'était pas trop grosse quand même. Alors il racontait ce qui suit. Le poisson, donc, s'était mis à avoir des pattes, à ramper, à marcher, puis il était devenu en rampant. Et il avait pu, à un certain moment, commencer de grimper sur les arbres, à la recherche d'insectes. Alors, une fois sur l'arbre, il allait vers une branche, puis une autre branche, encore une autre branche, toujours à la chasse d'insectes. Et puis, à un certain moment, l'idée lui est venue qu'il pouvait, au lieu de revenir d'une branche vers le tronc central pour se diriger vers une autre branche, l'idée lui était venue de pouvoir sauter d'une branche à l'autre pour gagner du temps et surprendre l'insecte. Et à force de sauter d'une branche à l'autre, vous êtes bien assis, attachez vos ceintures, ses écailles se sont transformées en plumes et c'est comme ça que l'oiseau a vu le jour. Ça, c'est dans la théorie de l'évolution. Au cours de millions d'années, on gobe ce genre de choses. Les hommes détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Mais c'est vrai, c'est une fable. D'ailleurs, un grand évolutionniste français qui avait cru dans l'évolution, Jean Rostand, éminent naturaliste, mort il y a peu de temps, sur une question d'un autre savant du nom de Bounour. Jean Rostand lui avait dit Bounour, dans un livre que j'ai à la maison. Croyez-vous vraiment à la théorie de l'évolution ? Jean Rostand, après avoir réfléchi, répondit « La théorie de l'évolution, c'est un conte de fées pour adultes. » Mais vous y croyez ? Oui, j'y crois, parce qu'on a rien d'autre. On n'a rien d'autre pour expliquer la présence de l'homme sur cette terre. Il résulte d'une certaine évolution, mais on ne sait pas. Je ne peux pas croire, a-t-il ajouté, que ce soit le hasard qui ait combiné les atomes. Il était coincé par certaines questions du savant Bounour. Et puis il avait terminé avec ces mots. Je suis littéralement hanté, hein, je le cite en substance. Sinon, ou tourmenté, sinon par Dieu, du moins par le non-Dieu. Ah, ce divorce d'avec Dieu. Et cette croyance absolument folle dans des choses qui n'existent pas, mais surtout pour évacuer Dieu. La théorie de l'évolution a été une aubaine pour évacuer Dieu. Tout est venu comme cela et tout seul. Alors, on évacue absolument tout ce qui est croyance, religion, sous prétexte de théorie de l'évolution. Et quand nous pensons que tout cela est venu d'un certain Darwin, qui a écrit un livre éminent, « L'origine des espèces », lequel livre, au siècle passé, le jour de sa parution, a été épuisé. Je répète, le jour de sa parution a été épuisé tellement on avait été friand de ce genre de choses, et tellement ce genre de choses était véritablement l'occasion pour évacuer Dieu, enfin, et pour faire notre route sans lui, divorce d'avec Dieu. Oh, mes amis, que c'est grave. Que c'est grave. Non seulement la théorie de l'évolution, une fable, les hommes se tourneront vers des fables, mais la réincarnation. 40% des Français y croient. Ça, c'est encore le divorce d'avec Dieu, cela. Alors qu'il n'en est jamais question dans les Saintes Écritures. Et si la réincarnation était une grande vérité, que les hommes devraient retenir, le Christ nous en aurait entretenu. Or, le Christ n'en a jamais parlé de la réincarnation. Et la Bible dit même, en Hébreux 9, n'est-ce pas, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Or, maintenant, la réincarnation permet à l'homme de mieux accepter l'idée même de la mort. Parce qu'on lui dit quoi ? Eh bien, l'homme ne meurt jamais. Sitôt mort, eh bien, il change de corps, il se réincarne dans un moustique. Et si, par exemple, il avait un mauvais karma, le karma étant la somme du bien ou du mal qu'une personne a pu accomplir au cours d'une existence terrestre et dont il sera tenu compte pour sa réincarnation. Là, c'est encore les œuvres. Alors, si, par exemple, j'ai un bon karma, j'ai passé une vie à avoir réellement fait du bien encore, alors je peux risquer de me réincarner dans un homme qui sera comme ça, hein, du tip-top. Si maintenant, j'ai passé une existence absolument épouvantable, je risque de me réincarner dans une guêpe. Oui, alors vous allez me dire, il y a des femmes qui sont des tailles de guêpe. Vous avez cette expression ? Oui. Vous connaissez l'histoire de celui qui avait épousé une taille de guêpe et quelques années après, il s'était rendu compte que c'était plutôt une guêpe de taille. Ouais. Alors ceci peut tellement surprendre et tellement tromper. C'est pour vous détendre, on est samedi, puis vous avez fait l'effort de venir. La réincarnation est véritablement une fable. Et c'est le diable qui avait semé cette idée dans le cœur de, dans les oreilles et le cœur de nos premiers parents, quand il leur a dit en Éden, n'est-ce pas, « Vous ne mourrez pas, Dieu le sait. Si vous péchez, vous ne mourrez pas. » Voilà le langage que nous tiennent les partisans de la réincarnation. Et ils disent aussi quoi ?« Vos yeux s'ouvriront. » Si vous péchez, vos yeux s'ouvriront. Et le nouvel âge nous entretient de quoi ? Il nous entretient du troisième œil et de la Kundalini. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et puis des expériences lumineuses par lesquelles ils peuvent passer grâce à la Kundalini, oui, je dis bien, lequel est une sorte de serpent lombaire se situant donc au bas de la colonne vertébrale. Oh, j'aimerais peut-être mettre en garde ceux qui, tout chrétiens qu'ils sont, accepte la pratique du yoga. Attention au yoga. Si vous l'avez étudié comme c'est mon cas, vous savez que le mot yoga signifie en sanskrit union. De telle manière que celui qui pratique le yoga cherche l'union. Avec quoi ? justement, avec l'énergie suprême, avec des maîtres de la sagesse, lesquels se situent dans l'au-delà. Ils cherchent l'union, pour ce qui nous concerne en tout cas, en tant que chrétiens, avec ces dominations, ces puissances de ténèbres dont l'apôtre nous entretient en Éphésiens 6, et la plupart du temps sans le savoir. Alors je poursuis. Vous savez que celui qui pratique le yoga, celui qu'il est convenu d'appeler le yogi, donc lorsqu'il est dans ses attitudes, de respiration, dans ses postures, essentiellement celles du lotus, croit qu'il ne respire pas de l'oxygène, mais de l'énergie, le prana. Et cette énergie qu'il respire, il le croit, vient donc chatouiller ses chakras, au nombre de 7, se situant le long de la colonne vertébrale et jusque dans la tête, ces chakras étant des points tout à fait virtuels dans le cœur de l'homme qu'on n'a jamais pu réellement situer de façon anatomique ni physique. Et ces chakras, excités par ce prana respiré au cours d'exercices justement respiratoires et au cours de ces postures, réveillent ce kundalini, ce serpent lombaire que tout homme a au bas de sa colonne vertébrale. Et ce kundalini réveillé commence une ascension le long de la colonne vertébrale jusque dans la tête. Et tandis qu'il chemine à force de méditation, à force d'exercice psychotechnique, ce kundalini en arrive jusqu'à la tête et permet au yogi de connaître des moments d'extase. Et ceci lui donne aussi d'expérimenter des explosions de lumière. Je ne sais comment rendre ces choses. En tout cas, tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous lire certaines choses dans ce livre qui a paru il y a peu de temps. Voilà, Scanner sur le Nouvel Âge, mon dernier livre où j'expose ces choses pour mettre en garde les chrétiens de ne pas verser dans le Nouvel Âge. Alors, nous sommes prêts à tout gober n'importe quoi. Tandis que lorsque nous sommes appelés à croire celui qui est la vérité dans sa personne. Le Christ a dit « Je suis la vérité ». Il n'y a plus personne. Véritablement, ceci nous fait frémir. Oui, si par certains côtés le monde fait montre d'une crédulité démentielle, par d'autres côtés, il fait montre d'une incrédulité démentielle. Quand on veut l'entretenir de Dieu, et un prêtre catholique en Europe a dit ce qui suit, le révérend père Manaranche, l'homme moderne est prêt à admettre n'importe quoi. Crédulité démentielle. Plus il est incroyant ou malcroyant, plus il est crédule, il ricane devant le miracle et se laisse berner par les supercheries de charlatans. Il est sceptique devant les prophéties bibliques, mais 50 000 voyants en France sont là pour assouvir sa curiosité et son inquiétude face à l'avenir. Voilà l'homme d'aujourd'hui. Évidemment, c'est l'Européen que je pointe, hein, parce que j'ai constamment affaire à lui. En Europe, je viens de temps en temps dans votre belle province, en tout cas, j'y venais 2 à 3 fois par année précédemment, maintenant je n'ai plus le temps, parce que je suis tellement pris, j'ai des campagnes jusqu'en 95, mes agendas sont pleins jusque-là. Alors, je suis obligé de partager avec la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique, les Antilles, l'Amérique latine, etc., le Madagascar. Alors, je ne peux plus venir qu'une fois par an, et même je pense que je devrais encore ralentir. Mais je parle de l'Européen, mais je suis persuadé que... En tout cas, vous êtes de racines européennes pour la plupart d'entre vous, hein. Oui, une projection de l'Europe ici, et avec ces 3 semaines que j'ai vécues, et c'est quelques 5 campagnes déjà passées, hein, dans cette tournée. J'en suis à la 6e. Encore qu'ici, il ne s'agisse pas vraiment d'une campagne d'évangélisation, mais d'une convention prophétique. J'ai pu remarquer que le Québécois ressemble quand même à l'Européen. Que nos crises déjà sont à peu près les mêmes, sur tous les plans. La crise du mariage, hein. la crise du travail. Nous sommes confrontés à des problèmes identiques qui nous donnent de réagir à peu près de la même façon. Et nous allons au-devant, justement, d'un siècle tout à fait révolutionnaire comme jamais précédemment, avec, pour bientôt, semble-t-il, je prends cette précaution, vous le constaterez tout au long de la conférence, d'user du conditionnel. Je crois que quand on parle de prophétie, il faut y aller, j'allais dire avec sagesse, et ne rien affirmer qui ne soit réellement contrôlé par les Saintes Écritures de façon précise et claire. Mais nous allons au-devant d'un siècle tout à fait étonnant, remarquable, avec celui que la Bible appelle justement l'Antéchrist, l'homme du péché, à partir d'un texte comme le suivant, Daniel 7, 25, à propos de l'Antéchrist, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, là je pense qu'il s'agit des Juifs, il espérera changer les temps et la loi. Pourquoi est-ce que je pense que nous ne sommes pas loin de ces temps-là, d'apostasie? Pourquoi suis-je persuadé que nous amorçons des temps pré-apostates? Parce que ces dernières décennies ont changé le siècle de façon étourdissante. En quelques courtes années, nos temps, le siècle a changé beaucoup plus que durant les 20 siècles précédents. Oh, il y a eu des changements avant ces dernières décennies, mais on s'en apercevait à peine. Ou pas du tout. Tandis qu'aujourd'hui, on a de la peine à suivre. On a tant de peine à s'ajuster. Tellement nous connaissons une accélération des connaissances, et tellement le monde va vite. Oui, nous marchons très vite. Et la Bible dit, par exemple, au livre d'Ésaïe le prophète, au chapitre 60 et au verset 22, c'est Dieu qui parle, « Dans la fin des temps, je hâterai les choses en leur temps. » Par exemple, qui pouvait imaginer, il y a seulement 4 ans, que le bloc de l'Est imploserait? Franchement. Aucun astrologue n'a fait allusion à cela. Et pourtant, c'était une affaire quand même, qui a réellement marqué notre temps, incontestablement. Lequel d'entre nos astrologues les plus éminents avait annoncé que le mur de Berlin disparaîtrait? Aucun n'avait allusion à cela, en tout cas en Europe, je ne sais pas ici. Oh, il y a eu une certaine Debra Lynch aux États-Unis, n'est-ce pas? En même temps qu'une certaine Jane Dixon, excusez mon anglais, et qui avait annoncé, surtout Debra Lynch, à la fin 86, le krach boursier de l'automne 87. Vous en souvenez? Alors, parce qu'elle avait dit vrai, là, des amis aux USA ont tenté d'analyser un peu ses prédictions. Et après les avoir bien analysées, ils s'étaient aperçus que Debra Lynch pouvait dire vrai 5% du temps. Pour cette raison-là, 40% de sa clientèle sont faits d'hommes d'affaires déboussolés par la crise économique qui la consulte pour savoir dans quelle direction donner. Parce qu'elle avait dit vrai à propos du krach boursier de l'automne 87, le journal de Wall Street lui a ouvert ses colonnes, elle y écrit des articles. Mais pour Alain Chouaquier, si elle dit vrai 5% du temps, ça veut dire qu'elle dit faux 95% du temps. Et c'est ce qui m'inquiète. Pourquoi cet engouement pour l'astrologie, pour la voyance? Pourquoi cet engouement pour ce qu'il est convenu d'appeler les sciences occultes d'une façon générale? Tout ceci nous parle de l'esprit de l'Antéchrist qui agit déjà de façon planétaire, le phénomène étant universel. Où que je me rende, sous quelque cieux que ce soit, j'ai affaire à cela. Et j'ai de plus en plus affaire au nouvel âge. Oui, l'Antéchrist sera donc le plus grand révolutionnaire de tous les temps, puisqu'il arrivera à changer les temps et la loi, dit la Bible. Ce qu'aucun révolutionnaire des temps passés n'a réussi à opérer. Et la première révolution, en fait, qu'il est en train d'opérer, son esprit en tout cas de nos jours, est la révolution spirituelle. Nous connaissons une révolution spirituelle au plan planétaire, comme semble-t-il jamais précédemment. Laquelle révolution spirituelle, je ne sais s'il faudrait l'appeler ainsi, je la qualifierais plutôt de révolution, parce que ce sont nos savants qui parlent de révolution spirituelle. Moi, je parlerais plutôt de révolution spiritualiste. Oui, laquelle génère la perte du sens de Dieu. Ceci pourrait aussi paraître paradoxal. Une révolution spirituelle qui génère la perte du sens de Dieu. Pourquoi ? Justement parce qu'elle n'a rien à faire avec le Dieu véritable, avec Jésus-Christ. Elle n'a rien à faire avec la Bible. Et bien entendu, quand j'évoque cette révolution spiritualiste, le Nouvel Âge. Alors, le Nouvel Âge, voilà par exemple ce que j'ai cru devoir écrire à cet égard. Tout d'abord, le pasteur Pierre Hamet de Suisse, qui a bien voulu préfacer cet ouvrage, a dit ce qui suit à propos du Nouvel Âge. Vous allez donc, en écoutant, comprendre pourquoi je parle de révolution spiritualiste. Mouvement mondial d'unité et de pensée philosophique, religieuse et politique, le Nouvel Âge est encore très divers dans ses courants. Il consiste dans l'émergence d'une nouvelle spiritualité, véritable religion à la carte, qui en est l'aspect le plus frappant et le plus séducteur. Pour ce qui me concerne, en tout cas, voilà ce que j'ai écrit dans l'avant-propos. Il m'est apparu nécessaire d'écrire sur le Nouvel Âge en raison du raz-de-marée qu'il représente dans certaines régions du monde, en particulier aux États-Unis d'Amérique. Vous savez qu'un Américain sur 10 est déjà dans le Nouvel Âge, hein, vous l'avez peut-être entendu dire. En Allemagne, en Scandinavie, pour l'heure, dit le magazine 20 ans, en France, il s'apprête à lécher le continent français. Les agents du Nouvel Âge, à l'heure qu'il est, se comptent par dizaines de milliers, alors que le Nouvel Âge n'a atteint la France que ces quelques années, là, ces dernières années passées. Oui, il se compte au nombre de 200 000 adeptes, et ils ont déjà dépassé dans mon pays le nombre des évangéliques, toutes dénominations confondues. Et dans le Nouvel Âge, en France, elles font partie, des personnalités de tous les univers, en particulier un certain Paco Rabanne, dont vous avez entendu parler, et le commandant Cousteau, qui y est à fond, n'est-ce pas ? Cette étude, je poursuis là, cherche à mettre en garde les vrais croyants, les encourageant à ancrer davantage leurs convictions dans les Saintes Écritures, qui sont notre seule autorité en matière de foi et de vie chrétienne, selon ce qu'en a dit à son Père le Christ lui-même en Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Elle veut aussi aider ceux et celles qui sont perplexes devant l'engouement actuel pour l'hindouisme. Le bouddhisme et l'occultisme, cette vague déferlante, est en train de submerger non seulement la France, mais aussi tout le monde occidental, tout cela aggravant la grande confusion religieuse, philosophique et spiritualiste de notre temps. Il semble qu'un virus mystico-ésotérique nous est piqué en Occident dans cette fin de siècle. Cette conférence veut affirmer qu'il n'est point besoin de l'Orient pour vivre épanoui sur cette terre et pour être pleinement assuré aujourd'hui même de notre salut éternel. Le Christ étant parfaitement suffisant pour ces choses, autant dans son admirable personne que dans son œuvre de rédemption parfaite.